un capital public. Et donc l'idée de règle d'or dont on parle souvent, c'est de dire l'endettement public qui a pour contrepartie un capital public, ça, on devrait l'accepter plus facilement. Donc je pense que tout ça, c'est, il faut avoir ça en arrière-plan pour se dire il faut évaluer bien la rentabilité sociale et économique des choses, et il y a les deux dimensions. C'est difficile à mesurer, évidemment, la rentabilité économique, en principe le marché est là pour la mesurer, la rentabilité sociale, c'est bien plus difficile, mais c'est le rôle des économistes de la mesurer et de la prendre en compte dans le projet. Et après, ces projets devraient, en principe, pouvoir être faits. Et dernier élément dans cette idée de pas, veux dire, c'est pas l'arbitrage entre s'endetter aujourd'hui ou avoir des taxes, éviter de lever des taxes. On sait bien que les taxes, disent les économistes, sont coûteuses. Elles sont plus coûteuses que le montant qu'on prélève. C'est une idée importante, c'est-à-dire qu'on a besoin de taxes, mais il y a quelque chose qu'on appelle le coût des fonds publics, c'est-à-dire que pour prélever 100, l'État a besoin de prendre 130, finalement, à l'activité économique, parce que ça va introduire des distorsions, ça va nuire un peu à l'efficacité du fonctionnement. Et donc, c'est vrai que les taxes, on en a besoin pour financer tous ces biens utiles, mais ça coûte plus cher qu'on ne le dit. Et quand beaucoup de gens disent l'économie, les taxes freinent le dynamisme de l'économie, il y a quelque chose de foncièrement vrai là-dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas qu'on peut y échapper, mais il y a quelque chose de vrai. Mais je veux dire, si on passe à un contrat de partenariat public-privé où les recettes ultérieures seront laissées à l'entrepreneur privé, il reste que on n'échappe pas à la partie publique. Si on échappe peut-être à des taxes aujourd'hui avec leurs coûts plus forts, mais on aura des taxes demain, et donc c'est pas un bon argument de voir les choses de manière myope. Il faut voir les choses dans l'ensemble. Enfin, pour finir, le dernier point qui va de soi, ce qui me paraît intéressant, c'est un peu dans la culture publique-privée, dans l'essai de mixer ça. Les économistes ont souvent tendance à attribuer des rôles trop précis, à dire au marché et au privé d'assurer l'efficacité, et à l'État de compenser, notamment de se soucier de justice, et puis de régler un certain nombre de points très particuliers concernant des services collectifs. Là, je ne sais plus trop que penser. Est-ce qu'il faut dire que cette idée garde de la valeur, je pense, elle est un peu inévitable, mais est-ce qu'on peut quand même brouiller les cartes en se disant, après tout, c'est une bonne chose d'avoir un État plus réactif, intégrant plus un certain nombre de valeurs du fonctionnement du système privé, ça c'est ce qui est dit souvent à propos des PPP, et inversement, d'avoir des entreprises qui se soucient, qui soient plus citoyennes, au sens où elles comprennent mieux que dans la rentabilité, il y a aussi une rentabilité sociale qui est un peu différente de ce à quoi elles sont habituées.
Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que finalement, il vaut mieux un bon endettement que de mauvaises taxes ?
Non, je dis, ça, c'est pas le bon choix, justement, parce que le bon endettement, il faudra le rembourser avec des taxes qui seront toujours aussi mauvaises. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt choisir les bons projets et bien les évaluer. Mais ça n'est pas...
Et le critère financier ne doit pas être le premier.
Le critère financier, il est financier en un sens plus profond et plus noble, c'est d'assurer, de mesurer la véritable rentabilité.
Alors, Vincent Piron, quand on parlait, on a évoqué le sujet avant en ce débat, vous me disiez, mais la première question que doit se poser une collectivité, quelle qu'elle soit, quand elle réfléchit à ce type de contre-nariat, c'est finalement l'utilité de ce qu'elle fait. Est-ce que justement les PPP, ça permet pas de se poser peut-être avec plus d'acuité encore cette question de l'utilité du projet ? Et de sa rentabilité, comme disait M. Dautum.
Une fois de plus, ça dépend des définitions, ça dépend des PPP. PPP, c'est un terme qui couvre tout. Donc je séparerai bien le contrat de partenariat et là, la famille concession, affermage, service. Quand on regarde la partie contrat de partenariat, étant donné que c'est payé principalement par des taxes, avec les inconvénients que dit Antoine Dautum, l'entreprise exécute ce qu'on lui demande, que l'ouvrage soit utile ou non. lui importe peu à l'entreprise. Si vous me demandez de construire une pyramide, je vous demanderai si vous la voulez pointe en haut, pointe en bas, ça m'est tout à fait égal. Bon, c'est après le problème de l'élu et du taxpayer, enfin du contribuable, qui le gère. En revanche, quand il s'agit de concession ou d'affermage, c'est totalement différent, puisque là, on va s'adresser, on vend un service, on va chercher un client qui a envie d'acheter quelque chose, et si on propose quelque chose qui n'intéresse pas le client, c'est-à-dire qui n'a pas d'utilité, eh bien, l'opération ira à la catastrophe. C'est pour ça que dans les concessions, le filtre de l'utilité et socio-économique de l'ouvrage est bien meilleur, bien plus fin que dans les contrats de partenariat. Et c'est pour ça que les contrats de partenariat, l'évaluation préalable a été inventée de façon à ce qu'il y ait précisément un filtre économique fort pour être sûr que la facilité avec laquelle on peut engager des budgets qui sont réduits, puisque les paiements sont plus longtemps, ne conduit pas à de la construction d'objets inutiles au sens économique, en mettant de la dette pour 30 ans pour des choses qui n'auraient pas de sens. Et ça a été la première réaction du Conseil constitutionnel. Quand il a regardé ça dans le détail, il a tout de suite cité le bon usage des deniers publics. Quand, à l'évidence, vous avez besoin d'une école ou d'un hôpital, ça se conçoit. Quand il s'agit d'agrandir le bureau du maire ou de multiplier par 4 la surface des bureaux du Conseil général ou de faire une salle des fêtes qui est utilisée 2 fois par an, c'est vrai que le contrat de partenariat peut permettre de le faire. Une concession ne le permettrait pas, puisqu'il n'y aurait pas les recettes, donc il n'y aurait pas de financement. Et ça fait donc un meilleur filtre.
Ah oui, donc la concession est quand même plus exigeante.
Ah, la concession est plus risquée, plus exigeante. Elle conduit à la vérité des chiffres. C'est pour ça que tout le monde trouve ça un peu cher, évidemment, puisqu'on cumule l'exploitation et la maintenance en bon état sur 30 ou 40 ans. Donc, oui, c'est plus cher à l'œil, mais quand vous regardez le coût d'une construction, comme certaines prisons que je ne citerai pas, où au bout de 5 ans, tout le premier étage, l'étage du dessus est inutilisable parce qu'il pleut dedans, vous rapportez ça à l'utilité créée et vous verrez que ça coûte moins cher d'avoir un contrat initialement plus cher, mais parce que l'utilité sociale est réellement exercée. Alors, en tant qu'entrepreneur, je vous dirais bien que les contrats de partenariat, ils sont efficaces parce qu'ils sont très, très contraignants. Donc, du point de vue de l'utilité sociale, c'est bien. Du point de vue de l'entreprise, on se ligote les mains puisqu'on s'interdit toute réclamation. Or, toute personne qui a déjà acheté quelque chose, toute personne travaillant dans le public, sait ce que c'est qu'une réclamation, un truc oublié, parce que le donneur d'ordre n'y a pas pensé au début. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre, ni dans les contrats de partenariat, ni dans les concessions. Donc à l'ouverture des plis, ça paraît plus cher. Dans la durée, je ne sais pas, il faudrait regarder, mais si on tient compte de l'utilité, un calcul économique montrerait que c'est moins cher.
Ah, monsieur Boudeville, vous n'étiez pas d'accord?
Non, je ne suis pas d'accord, je veux juste compléter le... Effectivement, c'est figé, mais ça n'empêche pas, en accord avec la personne publique, de faire des avenants au contrat. Je reprendrai mon exemple qui est proche, qui est celui de Bourgoin-Jallieu. La personne publique a souhaité rajouter un bâtiment, qui est un bâtiment d'un organisme de Virieux. Le bâtiment a été rajouté et construit dans les mêmes délais et sans surcoût réel, avec le coût du bâtiment, mais pas de surcoût réel.
Il a fait l'objet d'un autre contrat.
Non, ça a fait l'objet d'un avenant au contrat. Mmh. Donc le contrat permet quand même, quand on est dans une logique constructive, de permettre de rajouter un actif ou un bâtiment supplémentaire.
Mais alors, on dit souvent que, c'est sûrement des mauvaises langues qui disent que les groupes de BTP ont souvent tendance, pour remporter les contrats, à sous-estimer les coûts globaux et ensuite à se rattraper sur les avenants. Ça existe aussi, ça, dans les contrats de partenariat ?
Alors là, pour le coup, c'est plus compliqué. Sauf, je dirais que c'était, on a eu deux vagues, et je pense que ça a été dit un peu avant tout à l'heure. Avant qu'on parle de contrat de partenariat, on parlait des baux amphithéotiques administratifs, des baux amphithéotiques hospitaliers, qui étaient moins cadrés, qui n'avaient pas besoin d'avoir d'évaluation préalable. Et il faut, et ce serait honnête de le dire, il y a eu des dérives, surtout sur un certain nombre de projets hospitaliers, où ce qu'on appelle la reprise de fil dans certains milieux a eu lieu, et donc le coût a été dépassé. Voilà. Donc aujourd'hui, le fait que la loi de 2008, désormais, en plus de l'ordonnance de 2004, va cadrer ce type de contrat de plus en plus, on va aller vers, à mon avis, une moralisation, une normalisation de ces différents points.
Alors, oui, Tristan Mathieu, vous voulez intervenir. Donc, vous votez pour la concession aussi?
Non, moi je crois que on l'a dit, les deux contrats ont des caractéristiques qui sont un peu différentes et des performances qu'on analyse. Il est clair que le risque demande que citait Monsieur Piron est très clair. Il est plus sur la concession, donc on est plus dans le fait d'être obligé de rencontrer son public. Il y a un point qui est quand même très important,
enfin,
je trouve,
Tout à l'heure, on disait quand même que le contrat de partenariat, il faut exploiter derrière, parce que comme ça, ça motive à faire des bonnes constructions.
Oui, alors il y a un point d'ailleurs qui me semble fondamental, dans la concession d'ailleurs, comme dans le contrat de partenariat, c'est le sujet des délais. Nous, on le voit par exemple sur les sujets de stations d'épuration, de traitement des eaux usées, où la France a un certain retard en certains endroits sur ce type d'équipement et où les collectivités font appel aux entreprises pour justement par le biais de concessions raccourcir les délais, et nous on est capable en gros en 18 mois de faire ce qu'on ferait en peut-être 30 mois en marché public. Et en concession, on est très fort sur les délais parce qu'on est capable d'intégrer un certain nombre de démarches administratives, et ça le sera également en contrat de partenariat. Et donc c'est un outil qui permet de raccourcir les délais et à ce niveau-là de gagner de l'argent.
Monsieur Vasmer, donc en plus vous avez entendu qu'on a dit qu'il fallait surtout pas que le critère premier soit financier. Hein ?
Alors, bon, tout à l'heure on est revenu sur les 20% de surcoût dont on parlait. Bon, ces 20%, moi, je les ai lus sur des études qui étaient des retours sur les PPP britanniques et irlandais. Hein. Simplement, ce qui vient d'être dit est très vrai, c'est-à-dire qu'on a un gain à peu près indéniable sur les délais. Donc, et pour faire le lien avec l'intervention de M. Perron tout à l'heure, en fait, tout revient à l'utilité sociale. Jusqu'à quel point le gain de délai justifie un surcoût et sur quelle opération? C'est toute la question qui a à se poser pour une personne publique. Faut pas, le critère financier est un critère très important, c'est pas l'unique. On a des arbitrages à faire entre un gain et une utilité sociale. Après, c'est à nous de l'établir. Alors là, on est resté quand même sous l'angle des principes. Je voudrais juste, si vous me permettez, vous montrer en 2-3 exemples très pratiques le décalage qu'on peut avoir entre ces principes qui sont relativement sains, hein, ceux d'un transfert de risque moyennant rémunération, et la pratique. C'est-à-dire qu'on est sur un concept, celui du contrat de partenariat, le concept du PPP, qui est un concept anglo-saxon, avec des banques anglo-saxonnes qui acceptent de prendre des risques. Et je ne parle pas du tout pour Natixis, Fidep et la Caisse d'épargne, mais en règle générale, on a un milieu bancaire français qui n'est pas du tout sur cette ligne-là. Et on va prévoir des mécanismes, des frontières, des barrières qui vont remettre en cause complètement le principe. Alors je vais m'expliquer en essayant d'être pédagogue, parce que les mécanismes sont quand même relativement complexes. Mais on a un premier mécanisme qui est celui de la cession de créance. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, on nous a expliqué que le groupement d'entreprise, une fois le contrat signé, va se constituer en une société, qui est une société de projet dédiée, qui va être capitalisée à un certain montant. Or, entre le montant de la capitalisation et le montant total à financer, il y a un gros écart. Donc l'écart va être compensé par un appel au marché bancaire qui va apporter un certain nombre de crédits. Si vous faites ça et que vous vous arrêtez là, la personne publique va payer un loyer démesuré en France parce que il y a un gros risque qui est pris par la personne privée, et donc ce risque a un coût. C'est pas un partage de risque, c'est un transfert de risque contre rémunération. Alors la parade qui a été prise, c'est ce qu'on appelle la cession de créance. C'est-à-dire que c'est la personne publique va rembourser directement la banque, et c'est pas la société de projet qui va rembourser la banque. Et là, on revient à des taux d'intérêt qui sont proches de ceux d'une opération classique, mais en contrepartie, que l'opération marche ou pas, que vous ayez des gains sur les délais ou pas, ce qu'on appelle la cession de créance, la personne publique la payera tout le temps. Donc on est revenu totalement sur un des principes du PPP qui était le transfert de risque. Alors après, bon, cette cession de créance est variable. Ça, c'est un premier mécanisme. Le deuxième mécanisme que je trouve moi, encore plus parlant, que je ne connaissais pas avant d'arriver sur l'opération, que j'ai découvert un peu avec stupeur, c'est celui des provisions. C'est-à-dire, on discute lors du dialogue compétitif d'un transfert de risque. Quel est le risque que va assumer la personne publique? Quel est le risque que va assumer la personne privée? Et en fait, assez rapidement, vous vous rendez compte que la personne privée en face de vous, et c'est logique, c'est son métier, ce n'est pas du tout un jugement normatif que j'exprime, mais simplement un constat. La personne privée, chaque fois qu'elle va prendre un risque, elle va essayer de le calibrer, et donc elle va provisionner une somme pour combler ce risque. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit le risque survient, auquel cas, vous avez payé en fait, ce risque via le loyer que vous payez tous les mois, et dès lors que le risque survient à un niveau supérieur à la provision, c'est quand même la personne publique qui paye. Soit le risque ne se produit pas, et dans ce cas-là, vous l'avez payé au travers de votre loyer, mais vous l'avez payé pour rien. Donc dans un cas ou dans l'autre, la personne publique, quelque part, est perdante, quoi. Donc c'est quand même un mécanisme, une conception du transfert de risque qui est assez curieuse. J'ai d'autres exemples, deux petits exemples. Je vais pas être trop long sur le sujet.
C'est la parole à la défense.
Ceci dit, encore une fois, je pense que le mécanisme de PPP était particulièrement adapté au projet Étoile, mais il y a quand même certaines conditions qui sont à négocier pied à pied, et notamment les conditions de résiliation. Alors, les sociétés privées se constituent en groupement et créent une société de projet. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors que elle ne va pas répondre à ses engagements, vous allez pouvoir, vous, personne publique, tirer sur cette société de projet à hauteur du niveau à laquelle elle est capitalisée. Mais s'il y a une différence entre le montant où elle est capitalisée et le montant total à financer, c'est bien pour qu'elle puisse se mettre en faillite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez votre cession de créance, donc vous continuez, vous, personne publique, à rembourser la banque, mais la société privée qui était capitalisée, si l'opération est vraiment une catastrophe, et qu'elle ne peut plus assumer le niveau de risque auquel elle s'est engagée, elle fait tout simplement faillite, et vous vous retrouvez dans une situation un petit peu compliquée quand vous avez un contrôle de la Chambre régionale des comptes à qui il faut expliquer que vous avez signé ce contrat et que la société privée avec laquelle vous l'avez signé n'existe plus. Et puis, dernier élément...
C'est un autre risque, oui.
C'est encore un autre risque pris par la personne publique. Le dernier élément qu'il faut relativiser, hein. Encore une fois, on est sur des principes qui sont relativement sains, mais qui, dans la pratique, pour des raisons qui sont liées à l'offre et à la demande, ne recouvre pas forcément une réalité. On a parlé tout à l'heure du mécanisme de pénalité. Donc, entre la cession de créance et un certain nombre de choses, de clauses qui permettent à la personne privée de s'enlever de ses engagements, les mécanismes de pénalité sont au final relativement faibles. C'est-à-dire que si vous avez un loyer annuel de 50 ou 60 millions d'euros par an à payer à la personne privée, quand bien même son niveau de performance serait très bas, vous aurez quand même du mal à ne pas payer au moins les deux tiers du loyer. Quand vous arrivez à obtenir un niveau de pénalité qui est d'un tiers du loyer, c'est que vraiment vous avez atteint le summum du summum. Et si vous arrivez à obtenir plus derrière, et je pense que je ne serai pas contredit sur ce point-là, les fonds de pension, les banques et les investisseurs ont beaucoup de mal à venir sur un contrat.
Bien. Alors, justement, Claude Ménard, vous vouliez intervenir sur ce sujet. Vous êtes à peu près d'accord avec ce tableau un peu noir? Il nous avait fait la partie très positive tout à l'heure, et puis alors maintenant...
Non, je n'ai pas fait la partie positive, j'ai dit que chaque forme avait...
Monsieur Wassmer, tout à l'heure, nous parlait des avantages formidables du partenariat, mais c'était pour mieux ensuite les démolir.
Absolument. Non, je pense qu'effectivement, c'est le problème que je voulais soulever. On est quand même encore dans une situation où les défaillances des différentes solutions ne sont pas bien analysées et comparées, surtout. Hein. Je prends les trois cas de figure. Le contrat de partenariat. Bon, il se trouve qu'on a fait une étude pour l'AMAP, le ministère des Finances, hein, sur les contrats déjà réalisés. Les évaluations préalables sont très limitées, finalement, parce qu'il est très difficile de prendre... On en a regardé plusieurs. La prise en compte des frais qui seront occasionnés par opérations, maintenance, etc., n'est pas quelque chose qui est vraiment systématiquement pris en compte. Donc, on compare... Alors, normalement, on va aller vers cette solution-là par rapport à d'autres solutions. Par exemple, la concession. Mais la concession, il y a aussi des problèmes qui se posent et qu'on connaît bien maintenant. Les renégociations... les avenants, etc., qui modifient quand même significativement au cours du temps le contenu. Alors, quelles sont les solutions et le troisième volet, c'est lorsque l'autorité publique fait directement. Mais lorsque l'autorité fait directement, il y a plein de coûts qui ne sont pas pris en compte. Et en particulier les coûts d'entretien, de maintenance dans la durée. Donc évidemment, lorsqu'on compare les coûts, on va dire que c'est beaucoup plus cher si on fait affaire avec le partenariat. Il y a un problème de comparaison, et le CEFOP actuellement, qui est un organisme qui a été créé avec l'aide du ministère des Finances, essaie de recueillir des données pour arriver à une approche un peu comparative, pour voir quels sont les avantages comparatifs de telle solution dans tel cas de figure. Parce qu'on voit bien qu'il y a des risques et des problèmes dans les trois cas. De ce point de vue-là, la concession est OK dans certains cas, mais il y a beaucoup de cas où ça pose aussi des problèmes.
Oui. Alors, Nicolas Boudville, peut-être prenez un peu la défense des contrats de partenariat, parce que là, on a l'impression que, finalement, le privé refile le bébé du risque le plus rapidement possible à la collectivité.
Non, mais je n'ai pas entièrement défendre tous les points, parce que tout n'est pas faux. Et c'est surtout, je pense qu'il faut préciser un peu les sujets. Je pense que les 80% sont un... On a parlé de cession de créance. C'est aujourd'hui, effectivement, si on compare une dette qui doit être faite, les banques, elles vont regarder la contrepartie du prêt. Si elles regardent la contrepartie de la société projet purement et simplement, le coût de la dette va être important. Et le seul moyen en France... On a trouvé pour réduire ce coût était de créer cette cession de créance que les textes ont limité à 80% pour qu'il reste 20% et que les 20% puissent lui appliquer dessus les pénalités que l'on a évoquées tout à l'heure. Alors après, il y avait le deuxième point qui était une vraie charge là sur ces histoires de provision. Alors bon, il y a sûrement des points dans le cours du dialogue aujourd'hui sur le projet de M. Lassner qui l'a à l'esprit. Je dirais souvent, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout ce qu'on appelle les provisions pour ce qu'on appelle les risques inassurables. C'est-à-dire que nous, en tant qu'entreprise privée, il y a un certain nombre de risques qu'on ne sait pas prendre, qu'on a du mal à évaluer. Et donc, ce qu'on appelle les risques inassurables, j'ai envie de prendre un exemple, le changement de loi spécifique, c'est-à-dire je vais construire un laboratoire... en matière d'université, un laboratoire de recherche, il va y avoir des changements de loi qui vont intervenir sur des normes des laboratoires pour des laboratoires qu'on appelle en salle blanche ou autre. Honnêtement, c'est très difficile pour le privé de dire sur 25 ans, je vous assure, de respecter les règles futures qui sont liées à ces changements de loi. C'est ce qu'on appelle les changements de loi spécifiques. Il est vrai que dans ces cas-là, les consortiums ont tendance à dire ce changement de loi, c'est public, c'est vous qui allez l'initier, vous, personne publique. Si je dois l'assurer, eh ben effectivement, je vais provisionner ce risque. Donc, il faut, je pense qu'il y a dans la discussion, et c'est le principe du dialogue, chacun va essayer de faire bouger ce curseur pour en laisser un maximum vers la personne publique et le privé en prendre le moins possible un risque. Mais il est clair qu'il y en a certains sur lesquels le privé ne va pas être à l'aise. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Et il y en a d'autres, effectivement, sur lesquels le public a raison d'insister pour repousser ce risque de transfert vers le privé. Voilà.
Est-ce que c'est le sujet central, ce sujet du risque? C'est-à-dire qui va porter le risque?
Alors, il y a deux sujets, comme je le disais tout à l'heure. Il y a vraiment tout le volet compréhension du projet. Et une fois, je pense, la personne publique le sentiment que le consortium répond à sa demande, elle va rentrer dans le volet suivant qui est un volet juridico-financier et là vont surgir tous ces sujets-là. Voilà. Donc il y a deux grandes étapes un peu dans le contrat de partenariat. Il y a « je vous fournis ce que vous souhaitez » et on est à peu près d'accord sur ce qu'on fait. Et derrière ça, eh bien, effectivement, vont rentrer en jeu la logique du financement bancaire, les contrats qui vont avec. Et donc pour rendre le projet à la fois bancable, finançable, et juridiquement solide et qui atteint les objectifs de répartition de risque de chacun, c'est là où, dans la deuxième partie, on va rentrer sur ces discussions qui sont souvent un peu pesantes, mais qui sont malheureusement nécessaires.
Alors,
très brièvement, il y a le risque et l'utilité sociale. Je pense qu'il y a le problème du risque est central, le problème de l'utilité sociale aussi. Je ne contredis pas.
Oui, d'ailleurs, on supposait que c'est assez lié quand même. Alors, des questions dans la salle? Il y a des micros qui doivent se balader. Est-ce qu'il y a des... Oui. Est-ce qu'il y a... Voilà, c'est vrai. Il y a une main qui se lève, là. Je vois. Mademoiselle, hop, juste devant, là. C'est là.
Ça marche, oui. Bonsoir. Oui, moi, j'étais un peu surpris d'entendre que on confiait à des entreprises privées le risque de prototype, par exemple, alors que ça me paraît être quelque chose qui doit être couvert par essentiellement par l'activité et la puissance publique. Et aussi, concernant, par exemple, le cas des prisons, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des prisons témoins qui étaient restées dans le système public et qu'il devait y avoir du benchmarking entre les deux systèmes. Et après près de 20 ans de fonctionnement, ce serait intéressant de pouvoir faire le point.
Alors, sur la partie labo, c'est proto, hein, peut-être Guillaume Wassmer, c'est vrai que c'était quand même un peu surprenant.
Écoutez, sur notre opération, vous avez différents groupements. Certains groupements sont capables de proposer des solutions qui existent déjà ailleurs, à un certain prix, et d'autres groupements nous proposent un prototype, à un autre prix, inférieur. Donc dans ce cadre-là, encore une fois, il appartient à la personne publique de savoir si elle prend le risque, enfin, si dans le cadre de ce que je vous expliquais tout à l'heure, la cession de créances, etc., à partir du moment où on accepte d'aller sur une situation de prototype, alors quand on dit prototype, il faut s'entendre, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est éprouvé en laboratoire, qui est éprouvé, mais pas, qui n'a pas été testé dans des centres qui existent déjà dans le monde. Mais il appartient à la personne publique de savoir si elle veut payer plus cher quelque chose qui existe ou moins cher un prototype. Voilà. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que si vous voulez, c'est vrai que la notion de prototype peut induire en erreur. L'idée, c'est celle du risque technologique. Et qui porte le mieux le risque technologique? À mon sens, ce n'est pas la personne publique, c'est l'industriel.
Ben, ouais, ça se discute, non? Alors, Monsieur Piron, sur les prisons.
Ben, y a une étude qui a été faite il y a 4 ou 5 ans, au moment où on travaillait précisément la méthodologie du guide d'évaluation. Donc ça devait être entre 2003 et 2004. Et j'avais fait faire une étude qui est exactement celle que vous dites, sur 15 ans, enfin des prisons qui avaient été faites d'une certaine façon, et puis d'autres en PFI. Et je ne connais pas par cœur le chiffre, mais il y avait clairement un avantage aux prisons en PFI à cause de l'aspect maintenance. Parce que, comme le disait M. Wassmer, et bah, tout le monde le sait, les premiers crédits qu'on coupe, c'est les crédits de maintenance. Et les crédits de maintenance, bah, vous faites extrêmement vite un ouvrage inutilisable. Et donc, en calcul socio-économique, ça pesait beaucoup plus lourd que tous les autres surcoûts financiers. Et j'ouvre d'ailleurs une parenthèse correspondant à une vieille discussion entre mon camarade Antoine de Thume et moi depuis des années. Comment compare-t-on à un coût d'actualisation économique d'un côté et un surcoût d'actualisation financière de l'autre?
Bien, est-ce
oui,
que...
ici, là-haut. Voilà.
Ça y est, on voit.
Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Wassmer. Pardon. Moi, j'aime, la question que je me pose et que j'aimerais vous poser, c'est qui décide et pourquoi faudrait-il ériger le principe de raccourci des délais comme un dogme auquel il ne faudrait pas déroger? Vous avez évoqué le fait que le risque et l'utilité sociale sont au cœur du problème. Moi, je rajouterais aussi la temporalité, le temps. C'est-à-dire que M. Boudeville expliquait et a présenté la livraison de deux lycées faites par une entreprise privée dans les délais, etc. On a senti que c'était quand même préférable que le public, qui lui était toujours en train de sous-entendu ramer pour livrer leur lycée. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est dans quelles conditions vous avez été amené, comment l'entreprise, a quel coût en termes de ressources humaines, en termes empreinte écologique, puisqu'en plus c'est en Guyane, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des transports, quelle différence en termes donc de temps cela fait-il et en termes de coûts humains? Parce que vous avez cité également le fait que vous aviez des provisions, vous preniez des provisions par rapport à des lois, vous vous préserviez par rapport à des lois qui peuvent changer. Je veux dire, quand on prend le temps aussi de faire les choses, parce qu'en effet, livrer un lycée, c'est pas livrer un produit qui va être rentable à court terme, de toute façon. Donc j'ai envie de dire qu'il soit livré 6 mois après, qu'est-ce que ça change ? En revanche, le fait que des lois puissent changer, ça permet aussi de recadrer les choses. Donc ça évite peut-être, en effet, d'avoir à prendre des provisions. Donc moi, je trouve que ça se tient pas forcément, et je pense qu'on est tous les jours confrontés à un monde qui s'accélère, au fait que le respect de délai, c'est la course, c'est la course. La course, pourquoi en fait ? C'est pour pouvoir mieux rétribuer les actionnaires. C'est pas forcément le problème des marchés publics. Et d'autre part, je voudrais dire quand même qu'en tant qu'élu, je me suis rendu compte très souvent à l'usage que, contrairement à ce que moi j'aimerais qu'il se passe, c'est très souvent la collectivité qui prend les risques et qui assume les déficits, alors que les bénéfices, ils sont pris par l'entreprise qui est partenaire.
Bon, alors, qui répond ? Peut-être vous, finalement, monsieur Bouteville.
Bon, alors, je vais prendre les lycées, parce que vous en voulez à ces pauvres Guyanais. Donc, les lycées de Guyane, les 3 lycées de Guyane... Ce qui peut être assez étonnant, c'est que l'impact de ne pas avoir livré en temps et en heure, c'est simplement d'avoir laissé des enfants, en grande partie en Guyane, qui n'ont pas eu accès à des salles scolaires, puisque la Guyane est confrontée à un taux de croissance, c'est un peu particulier comme territoire, mais c'est un taux de croissance de la population jeune assez exponentiel, et donc ils ont un vrai problème de livraison de délais de lycée. Alors après, derrière ça, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, les 3 lycées qui n'ont pas été livrés en temps et en heure, pour certains d'entre eux, c'est les mêmes constructeurs. Donc l'équilibre que vous allez faire, c'est simplement un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans certains cas, vous ajoutez des tiers dans le cadre d'un PPP, vous avez les investisseurs, vous avez dans certains cas les banques et autres qui sont aussi à risque sur ces délais. Et donc tout le monde va faire en sorte qu'on les livre en temps et en heure, afin que ce soit des lycées qui soient conformes. Après, vous évoquez le problématique du développement durable, d'impact. Alors ça, je vous remercie d'avoir posé la question, parce que pour le coup, sur ce projet-là, c'est le contre-exemple, en tout cas pour moi, le contre-exemple. Le contrat avait été signé sans aucune obligation forte à ce niveau-là, et c'est simplement dans le cadre de l'optimisation du coût financier que les constructeurs ont eu l'idée de construire les lycées avec des toits adaptés et ont transformé ces 3 lycées en la plus grande ferme solaire qui existe aujourd'hui dans les dom-toms. Donc aujourd'hui, et le revenu de ces toits a été réparti à 80% pour la personne publique et 20% pour le privé, en l'occurrence le tiers, parce que c'est qui va gérer ses actifs. Et donc on se retrouve avec une situation qui n'était pas demandée à l'origine et qui a été intégrée dans le projet et qui n'était pas du tout demandée par la personne publique. Donc voilà les 2 points. Et dernier point que vous avez soulevé, c'est cette problématique des provisions. Je le citais vraiment dans ce que j'appelle dans les changements de loi spécifiques, très particuliers. On ne retrouve pas ces problématiques, on va dire, dans les changements de loi généraux, dans le sens aujourd'hui où, comme on le disait tout à l'heure, les contrats vont être discutés et toute la discussion, on va dire, sur le changement de loi général va être de savoir à quel moment on le fige. Alors là, il y a sûrement des discussions en cours sur des dossiers ouverts, mais les grandes questions, c'est est-ce qu'on le fige au moment où on dépose le permis de construire, au moment où on signe le contrat ? Donc c'est souvent les discussions qu'il va y avoir entre les consortiums. Et la grande question, c'est globalement, le public veut attendre le moment où on dépose le permis de construire, donc c'est quelques mois après la signature du contrat pour être certain que la construction va intégrer l'intégralité des règles et des lois en vigueur au moment du dépôt du permis de construire. Donc là, c'est clair, mais c'est aussi le rôle de cette négociation à la personne publique d'imposer cette signature et ces points à ce niveau-là. Voilà.
Oui, monsieur Vasmer, allez-y.
Juste 2 compléments très, très, très rapides. Hein. Je souscris en grande partie à ce qui vient d'être dit. La première chose, c'est que qui décide ? Il faut quand même rappeler, parce que je crois qu'on ne l'a pas fait dans le débat, que le PPP n'est pas une procédure normale. C'est une procédure d'exception, dérogatoire au droit commun. Et vous devez justifier de l'usage du PPP au travers de 3 critères qui sont l'urgence, la complexité et l'avantage financier. Donc si vous ne pouvez justifier aucun de ces 3 critères, vous ne pouvez pas faire de PPP. Donc ce n'est pas un mécanisme absolu qu'on peut imposer partout. Ça, c'est la première chose. Elle est relativement particulière et je pense qu'on peut l'extrapoler. C'est-à-dire que d'une manière générale, je crois qu'il fait... Bon, j'ai été très loin dans les avantages du PPP, j'ai été très loin, très caricatural dans les défauts du PPP. Mais c'était volontaire, en fait. C'était simplement pour dire qu'il ne faut pas envisager, je crois, les PPP comme, sous un angle idéologique du style « le privé fait mieux » ou « à l'inverse, il s'agit d'un instrument, le PPP, pour privatiser le service public ». Honnêtement, je crois que ce n'est pas, c'est pas une philosophie, le PPP. C'est un outil ou c'est plus exactement un élément d'une boîte à outils dont dispose le décideur public. Et cette boîte à outils, elle est plus ou moins adaptée en fonction de la nature des équipements, en fonction de l'état du marché. Parce que dans une crise financière, il est beaucoup moins utile de faire appel à un PPP que dans une opération classique. Et puis en fonction de la durée, en fonction de la complexité. Vraiment, il y a tout un tas de critères qui rentrent en cause. Et la décision de recourir ou non à un PPP, c'est pas quelqu'un qui la prend seul dans son bureau quand même. Il y a un certain nombre de pouvoirs et de contre-pouvoirs qui sont là pour le dire. Mais jamais un fonctionnaire hospitalier ou autre, d'ailleurs, ne prendra la décision seul sans qu'un conseil d'administration, d'une part, l'ait validé, et d'autre part, que la mission d'appui au PPP, qu'on a évoqué tout à l'heure, en justifie l'utilité après qu'un dossier d'autorisation lui ait été envoyé. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, quand même.
Bien, mais Guillaume Wasmer, merci. Ça servira de conclusion à cette journée, à cette table ronde. En tout cas, vous avez compris que finalement, il faut s'éloigner un petit peu de l'idéologie pour essayer de marier de temps en temps, quand c'est possible et quand c'est pertinent, le public et le privé. Merci à tous.